m'en dirai des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un homme engagé que nous recevons aujourd'hui, une figure de l'opposition au président Paul Biya. Il a d'ailleurs passé plusieurs semaines dans les geôles camerounaises en décembre dernier, mais Patrice Ganang est aussi écrivain et c'est pour un roman que nous le recevons aujourd'hui. Un roman fleuve de plus de 500 pages, un roman historique et politique qui nous plonge à l'époque du Cameroun nouvellement indépendant, mais qui a des résonances très contemporaines. Une histoire de famille, de filiation et de transmission, une histoire de passion surtout, qu'elle soit amoureuse ou politique, passion avec tout ce que ce mot peut charrier d'intensité, d'excès, d'espoir, de souffrance aussi. Empreinte de crabe de Patrice Ganang est paru chez Jean-Claude Lattès et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Patrice Ganang.
Bonjour.
Alors ce crabe dont il est question sur la couverture, dont il est question dans le titre, le lecteur non averti en découvre la signification à peu près à la moitié du livre et il le découvre sur un drapeau.
Oui, en effet.
Drapeau rouge marqué d'un crabe noir.
Si.
Et il y a une note de bas de page, parce qu'il y a beaucoup de notes
dans
ce livre, extrêmement utile quand on ne connaît pas le Cameroun. De qui, de quoi ce drapeau est-il l'emblème?
De l'Union des Populations Camerounaises, qui est le parti nationaliste, sinon d'ailleurs le premier parti politique camerounais, créé en 1948, mais aussi interdit quelques années plus tard, 55, cependant qui a fabriqué la conscience politique des Camerounais en général. Mais le drapeau lui-même, parce que ce parti se voulait un parti national, était le premier, s'imaginait comme étant le drapeau du Cameroun en général. Ce qu'il n'est pas devenu, évidemment, avec l'interdiction de l'UPC.
Donc, parti indépendantiste, parti nationaliste, qui a beaucoup compté dans l'avènement du Cameroun tel qu'il est aujourd'hui, mais qui a aussi participé à l'émancipation de beaucoup d'autres peuples africains.
Évidemment, parce que l'UPC était une branche du Rassemblement démocratique africain, qui est le parti qui, partant de l'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire au Faute-Boigny, a structuré la scène politique de l'Afrique francophone en général, créant les structures qui fabriqueront les États par après les indépendances. Sauf, évidemment, au Cameroun, où ce parti a perdu la bataille, disons, de la bataille politique sans perdre celle des consciences.
Alors, juste à côté de ce drapeau, qui flotte donc à la page 271 du livre, il y a deux personnages. Il y a Ernest Ouandié, une grande figure de l'indépendance du Cameroun. On voit d'ailleurs sa photo sur le bandeau qui entoure le livre. Ouandié qui est mort fusillé en 1971 à Bafoussam. C'est vraiment pour le Cameroun un personnage historique de premier plan. En fait, ce livre, est-ce que vous l'avez écrit pour lui rendre hommage, Patrice Ganang?
Oui, ça c'est vrai, parce que déjà Ernest Ouandié, c'est pas seulement une personne qui a sacrifié sa vie en consacrant 10 ans de celle-ci au maquis, où en fait il a tout abandonné parce qu'il a quitté le Cameroun à la suite des émeutes de 55 à Douala, qui au bout desquelles l'UPC serait interdite et des centaines de milliers de Camerounais seraient jetés dans l'exil. Il est allé dans un exil, mais il est revenu au Cameroun volontairement, où il est entré dans le maquis. Il a ressortira pour être exécuté.
Mais il y a un vrai travail d'historiographie, évidemment, derrière tout cela. Est-ce que vous en avez fait un personnage de roman, puisque les mots que vous mettez dans sa bouche, parce qu'il y a beaucoup de dialogues à l'intérieur de ce livre, vous les avez reconstitués? Ce sont des paroles historiques qu'il a prononcées lui-même, ou bien, en tant qu'écrivain, la fameuse licence poétique de l'écrivain, vous vous êtes autorisé à endosser son costume et sa parole?
Les deux déjà, parce que d'une part, Ouandié était maître d'école, il était directeur d'une école avant son entrée dans le maquis. Donc il a beaucoup écrit, et ces écrits qui ne sont pas encore publiés de manière collective, cependant sont disponibles, et j'ai bien sûr lu ces textes qui m'ont aidé à comprendre quelle personnalité il avait, comment est-ce qu'il pensait, par-delà le jargon, parce que le jargon qu'il utilisait évidemment c'est celui de la gauche des années 60, donc et de l'anti-impérialisme, etc. Donc cela c'est un peu froid. Cependant, derrière, il fallait recomposer le personnage et ça m'a donné une idée. Et d'autre part, j'ai rencontré son secrétaire particulier sous le maquis, n'est-ce pas, qui est un personnage très intéressant et qui m'a donné beaucoup de clés. Et j'ai également rencontré beaucoup de gens, par exemple, certains de ses élèves, certains de ses amis, et qui m'ont fait comprendre que déjà le langage sous le maquis, c'était pas le français qu'on écrit dans les textes, mais c'était plutôt le pidgin.
Oui.
Et il fallait y rentrer pour pouvoir structurer ce genre de choses.
Alors, il y a donc ce personnage d'Ernest Ouandié, donc au pied de ce fameux drapeau, et puis il y a votre héros à vous, Voilà. Hein, si j'ose dire, celui que vous avez créé, qui s'appelle NITAP, et dont vous racontez le destin à travers les pages de ce livre. C'est un destin extraordinaire à plusieurs titres. D'abord, il est infirmier, il est médecin, il travaille à l'hôpital. Alors, on sait pas trop si c'est infirmier, médecin, chirurgien.
Mais on ne sait jamais.
On sait jamais, hein.
On ne sait jamais docteur, etc. Parce que c'est une position de j'ose dire, de l'indigène dans la colonie qui ne définit pas spécifiquement quelle est la position qu'il curative. Bref, il était infirmier et au village, on l'appelait docteur et on l'appelait médecin également.
Voilà. Donc, à l'hôpital de Bangoua qui se trouve dans l'ouest du Cameroun. Donc, je disais, c'est un destin assez extraordinaire parce que lui aussi va devenir révolutionnaire. On va pas tout raconter, mais enfin, bon, quand même.
Évidemment, il y a un minimum. Faut bien que les gens lisent le livre.
Il y a un minimum. Voilà. Mais c'est pas un révolutionnaire dans l'âme, si je veux dire. Ce sont plus les circonstances qui en ont décidé pour lui.
En effet, parce que c'est bien difficile d'avoir un médecin qui soit révolutionnaire dans l'âme, à part peut-être Che Guevara.
Oui.
Parce que déjà, les médecins ont le serment d'Hippocrate et c'est ce qui les place en difficulté toujours dans le maquis parce qu'ils reçoivent des gens, le maquis fabrique des blessés, fabrique des gens qui vont mourir, etc. Donc, ils ont besoin d'un médecin. Cependant, le médecin est d'habitude une personnalité dans la structure coloniale. C'est-à-dire, l'hôpital, c'est un hôpital colonial. Donc,
dirigé par un médecin français,
voilà,
le docteur Broussou.
Voilà. Et donc, le médecin qui est un médecin indigène selon le langage de l'époque est un infirmier, donc. Donc, elle se retrouve pris entre deux feux parce que déjà, tribalement parlant, culturellement parlant, mais aussi en termes de sa propre croissance, les gens qui sont dans le maquis sont ces gens. Et donc, ils ont des blessés. Et ils n'ont pas de médecin. Il lui faut bien faire ce travail-là, soigner des gens qu'il connaît plus ou moins, ou bien qui viennent le voir pour être soignés, ou bien, bref, qui le forcent.
Qui le force, voilà. Donc, il va être forcé de soigner un personnage important du maquis qui s'appelle
Qui s'appelle Singap Martin, vient d'avoir un accident, n'est-ce pas? Singap qui mourra quelque temps après. Cependant, avant, il y aura des batailles extraordinaires. Mais revenons sur le serment d'Hippocrate qui veut que le médecin soit obligé de faire son travail. Évidemment, quiconque a une formation de médecin veut faire son travail, mais la structure de l'État veut également que tout maquisard, tout rebelle, tout suit, comme on les appelait, soit du moins livré à l'administration.
Et donc, après avoir respecté son serment d'Hippocrate, votre héros, NITAP, va revenir à l'hôpital et il va discuter avec l'un de ses amis qui n'est pas du tout médecin, hein, mais qui est un intellectuel, enseignant, extrêmement engagé au sein de l'UPC, qui s'appelle Niamsi, qui est vraiment beaucoup plus idéologue, beaucoup plus politique, beaucoup plus engagé que NITAP.
Engagé dans sa tête, n'est-ce pas?
Dans sa tête, voilà. Nous sommes page 196 de votre roman, Patrice Ganong.
Niamsi aussi interrogea son ami sur les conséquences de l'enlèvement. Soutenait-il la rébellion ou non? Assis dans un fauteuil au salon, il imaginait devant lui l'espace d'une bataille fictive, tandis que ses doigts, ses mains, son corps, tout son corps traçaient les contours du conflit. Son regard de feu voyait des bataillons à la place des chaises et des tables, des soldats à la place des livres. « Mets-toi à ma place !» lui disait le médecin. Mais Niamsi n'avait pas l'habitude de se mettre à la place des autres. La sienne, il l'occupait déjà intensément, et son orgueil ne lui permettait pas de penser autrement. Était-ce la jalousie? Ou cette tendance trop camerounaise à l'extrapolation facile que lui-même appelait amusé le moi-aussisme? C'est bien lui qui, il y a quelque temps, avait souhaité rejoindre le maquis. Qu'il ait été devancé dans cette entreprise semblait l'avoir chamboulé, car soudain, son argumentation était bancale, sa passion frisait l'hystérie, et plusieurs fois son ami dut le prier de baisser le ton. « C'est comme ça, le Camerounais, » y allait-il. « Il ne peut jamais répondre à une question simplement. » Il secouait la tête et reprenait de l'élan. Allait-il dérouler sa théorie générale du Camerounais qui, selon lui, ne correspondait pas à la distinction plutôt européenne entre raison et passion, mais se classait selon une fourchette qui séparait l'égoïsme de la générosité et avait fondé le substrat culturel qu'il appelait le béaba du changement? « Le nationalisme prend pied parmi les peuples généreux, » croyait-il. Ce n'est pas pour rien qu'il a enflammé les Bassa, les Bamileke, quand les Nordistes, les Bétis, il parlait en connaissance de cause, disait-il. « Nous sommes surveillés, tu sais, » lui souffla NITAP. « Je te l'ai toujours dit, » continuait-il. « Nous sommes en guerre, c'est la guerre civile, frère contre frère, père contre fils contre père, fille contre mère, et tout cela sous le ponce pilatisme des Français qui tirent les ficelles. » Il est impossible de ne pas choisir son camp. Il est impossible d'être neutre quand on voit ses frères massacrés. Se mettre de leur côté, c'est faire preuve de générosité et donc de nationalisme. Vois-tu, les Bamileke sont l'avant-garde de la révolution camerounaise. Autrement dit, mon cher, nous sommes tous Bamileke. Toi, tu es allé jusque dans l'antre des nationalistes, tu es resté avec eux, tu as même soigné Sangap Martin. Et tu reviens me dire que tu as maintenu ta neutralité comme Ngutchou sa virginité? De quoi parles-tu? Niamsi éclata de rire, il avait marqué un point.
Niamsi qui est décidément un fin lettré et qui sait utiliser la vie privée de son ami pour le convaincre et qui parle donc du ponspilatisme des Français qui, ajoute-t-il, tire les ficelles. Il y a une petite contradiction, là on peut pas être ponspilate sans laver les mains et en même temps tirer les ficelles, non?
Oui, en effet, et c'est cette difficulté-là parce que le Cameroun, dont il s'agit, était déjà indépendant. Et donc le Cameroun, d'expression française, a été indépendant le 1er janvier 1960. Dans la guerre civile en région Bamileke...
Alors, je vous coupe parce que le mot « guerre » n'est pas accepté, je crois, par les autorités aujourd'hui. Enfin, est-ce réellement une guerre civile à l'époque? Pour Niamsi, ça ne fait aucun doute. Et pour vous, Patrice Guinand, on peut parler de guerre?
Pour moi, c'était une guerre.
Et une guerre civile?
Oui, évidemment. Il y a une guerre civile, c'est a lieu lorsqu'un État se retourne contre sa population, un État indépendant. Et le Cameroun était francophone était indépendant en 1961, le 1er janvier. Et ce roman, je l'ai écrit du point de vue de, je dirais d'ailleurs, de mes parents qui ont traversé ce moment. Je dois d'ailleurs avouer que j'ai toujours voulu raconter une histoire qui présente la complexe dimension, la dimension complexe de mes parents, qui se raconte difficilement, mais pour qui c'est évident, c'était une guerre, parce qu'ils l'ont traversé. Avec des souffrances, avec des batailles, avec des camps, et il fallait choisir sa position et où l'ennemi était clairement eux.
Oui, avec une guerre, avec une violence qui s'est absolument déchaînée. Hein, si on en croit ce que vous racontez dans le roman, il y a une politique de la terre brûlée au sens propre. Voilà, il y a des têtes comme ça qui sont coupées, qui ont été exposées en public. Et de tout cela, c'est en tout cas ce que vous nous dites dans l'avertissement du roman. On ne parle pas.
Non, on ne parle pas. C'est tabou. C'est tabou dans ce sens où c'est un tabou social, mais c'est aussi un tabou politique parce qu'il faut se rappeler que ceux qui ont coupé des têtes sont encore au pouvoir au Cameroun. Donc, par exemple, Paul Biya était secrétaire général à la présidence en 71 lorsque Wanja a été exécuté. Donc, il était vraiment dans la fabrique de cette exécution.
On voit Paul Biya à plusieurs reprises apparaître dans le roman et pas toujours, et ceux qui vous connaissent seront pas très étonnés, pas toujours d'une façon très positive.
C'est bon, mais déjà, il apparaît en 60 comme jeune homme, n'est-ce pas?
Oui.
Très bien habillé, oui. Qui est dans une fête et qu'on rencontre qui est en fait une ombre et c'est qu'il est toujours aujourd'hui.
C'est un défi envers Paul Biya, ce livre, Patrice Guinand.
En fait, c'est raconter l'histoire du point de vue de ceux qui l'ont vécu. Et je pense qu'il y a un témoin qui ne se raconte pas. Il fait partie de ceux qui sont silencieux. Tout comme d'ailleurs la société qui a vécu ces drames-là. C'est vraiment quelque chose que d'avoir des parents Bamileke parler des tragédies qu'ils ont traversées. C'est d'ailleurs impossible. Et donc, il faut trouver des stratagèmes, il faut trouver des moyens, des astuces pour leur faire dire ici une phrase, là un épisode. Et parfois, ils voient quelque chose. Une musique, par exemple, ça leur appelle des souvenirs et puis se mettent à parler.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Patrice Guinand qui publie Empreinte de crabe chez Jean-Claude Lattès. Alors c'est un livre qui nous parle, on l'a compris, de la grande histoire, mais c'est aussi un roman de passion politique, je le disais, mais aussi de passion amoureuse. Parce que quand démarre le livre, le personnage de Nitap, eh bien on le découvre pas en tant que combattant, hein, mais en tant que grand-père, un grand-père malade, que son fils Tanou, qui est professeur d'université aux États-Unis, tient donc.
Voilà, en effet, bon, il faut déjà.
Il ressemble un petit peu Tanou, Patrice Guinand, non? Il est dans le New Jersey, du côté de New York. Voilà, c'est Patrice Tanoun Ganang.
Non, disons, en fait, ce serait trop dit, parce que sinon Kafka serait K, etc. Il y a toujours cette différence entre l'auteur et puis le personnage.
Oui, mais vous avez parlé vous-même de votre père il y a un instant. Donc,
oui,
il y a
ça
aussi
c'est vrai.
Bon, déjà, cette tradition familiale-là nourrit aussi le roman.
Ça c'est vrai, déjà, parce que je voulais raconter la biographie de la génération qui m'a mis au monde. Et je crois que tout Camerounais qui a mon âge, 48 ans plus ou moins, aimerait savoir ce qui s'est passé avant, ce qui demeure, on l'a dit, un tabou Cameroun, parce que les structures de continuité sont toujours là, dont la parole, l'expression de la parole historique est encore impossible.
Alors, elle n'est pas évidente non plus, la parole entre le père et le fils. Hein. Nita a pas du mal à se confier à Tanou, mais ce qui les rapproche, et on le voit très très bien à plusieurs moments du livre, c'est l'amour des femmes, c'est la passion amoureuse, c'est le sexe aussi, ça va avec. Alors évidemment, on est à deux époques complètement différentes. Hein. Les deux personnages vivent leur passion de façon très différente. Voilà. Tanou, il est à l'heure des réseaux sociaux et de Facebook, ce qui va lui jouer quelques tours, voilà. Nitap, lui, il a connu plusieurs passions amoureuses, notamment avec la mère de Tanou, la mère de Tanou qui est la fille d'un pasteur très respecté,
voilà.
Et qui s'est lancée. Là, on en arrive encore une fois à la politique. Décidément, même quand on parle d'amour, on en arrive très très vite au combat à la politique, parce que ce pasteur-là, il s'est lancé dans une entreprise de titans, traduire la Bible en alphabet local, en alphabet Bamilekir, un alphabet Bagam.
Voilà, voilà.
Et ça, c'est non seulement un travail de titan, mais c'est d'abord un geste politique, Patrice Ganon.
Oui, j'aimerais peut-être préciser que l'amour, c'est vraiment l'autre visage de la guerre. Les deux sont liés. Je voulais raconter, au départ, je dois le dire clairement, je voulais écrire une histoire d'amour d'adultère, avec comme soubassement la guerre civile.
Voilà.
Et donc, où tout est permis parce que les passions se déchaînent, et où on peut brûler des villages, mais en même temps tomber amoureux facilement, et etc. Je voulais écrire une histoire comme ça, mais une histoire qui ne soit pas celle de ma propre vie, une histoire qui soit celle de mes parents. Et évidemment, il y a ce tabou fondamental qui veut que parler de la chambre parentale, c'est impossible. Donc, parce que évidemment, le père ne va pas en parler. Après tout, c'est là qu'on est né.
Mais il y a beaucoup de contextes et d'intertextes quand il s'agit. Les choses sont très très suggérées. Et puis, bon, il y a quand même une dispute absolument homérique qu'on va pas raconter, mais qui est très très drôle, servie aussi par le titre d'une des quatre parties du livre, des quatre ou cinq parties du livre, qui est quand même un titre coup de poing aussi. On n'en dira pas plus. Mais alors, revenons-en à la Bible, précisément, où il y a aussi des histoires d'adultère, d'ailleurs, accessoirement, dans la Bible. Mais tout de même, donc, ce pasteur, qui est donc le beau-père. De Tanou, et donc, qui traduit la Bible en langage bagam, en langage bamileke, entre prise politique, je le disais, en fait on se rend compte en vous lisant, mais il n'y a pas que cet épisode-là, il y en a plein d'autres, c'est que rien n'est plus politique que la langue.
En effet, déjà il faut dire que ce pasteur-là est un embranchement de ce qui s'appelait le Kumze, qui est qui était la fédération des tontines, des associations tribales Bamileke, mais qui est en fait le substrat intellectuel de ce qui a fabriqué la conscience politique des Bamileke et qui a fait qu'ils passent, disons, à gauche et ait une définition claire de ce que c'est que leur propre autonomie, la liberté, et en fait prennent les armes par la suite. Donc je voulais, à travers ça, montrer que la passion n'est pas seulement une passion charnelle, elle est également une passion intellectuelle, et c'est elle qui fait que les gens posent des actes qui en fait défendent leurs droits.
On a un peu l'impression, quand on vous lit, Patrice Ganon, que c'était le cas aussi dans l'extrait dont on a entendu quelques mots il y a un instant, qu'il y avait et qu'il y a encore aujourd'hui au Cameroun ce qu'on pourrait appeler une spécificité, peut-être même une question Bamileke.
Ah oui, je crois.
Pourquoi les Bamileke ne sont-ils pas des Camerounais comme les autres?
Je me ferais insulter si je donnais une réponse directe, parce que je me ferais insulter à gauche et à droite, n'est-ce pas? D'abord par les Bamileke, ensuite par les non-Bamileke.
Oui, donc marcher en crabe un peu sur le côté,
voilà,
comme ça.
Voilà, nous y sommes, n'est-ce pas, empreintes de crabe. Il faut poser des traces plus ou moins prudentes, parce qu'on ne sait jamais si en dessous du sable, il y a peut-être une bombe.
Oui.
Mais il demeure que la guerre civile dans ce roman parle a été la fracture sociale pour le Cameroun d'aujourd'hui, ce qui fait que les Camerounais ont été obligés de se définir en conséquence des partis politiques indépendants, c'est-à-dire le parti qui a mené la guerre et qui, disons, l'a gagné, et le parti qui l'a perdu. On définit ce que c'est que la droite et la gauche au Cameroun, disons comme ça. Et les Bamileke, évidemment, sont le seul peuple au Cameroun qui a dû prêter serment sur le drapeau pour dire que nous sommes Camerounais, étant donné qu'ils avaient pris les armes contre la République au moment où celle-ci devenait indépendante. Avec ça, ils sont déjà singularisés. On peut rentrer peut-être, du moins dans le passé, avant l'indépendance, et voir la relation plus ou moins problématique des Français avec l'ouest du Cameroun, où tout l'héritage intellectuel qui avait été bâti à travers, par exemple, le Kumze, mais avant à travers Njoya, n'est-ce pas, les mentions des écritures, les textes qui ont été écrits, tout avait été interdit, brûlé, dans les chefferies, la volonté de fabriquer un gouvernement indirect à l'intérieur de la politique française qui était plutôt celle d'assimilation, n'est-ce pas, ça fait que les Bamileke soient demeurés jusqu'aujourd'hui, avec les structures économiques surtout, soient demeurés, du moins, l'autre du Cameroun qui est français, qui est assimilé. Donc, les Bamileke ne se laissent pas assimiler. Ils sont, disons, indépendants.
Mais le personnage de Nitap, Patrick Ganong, est un peu à la croisée des chemins entre tout ça. Parce que, bon, il maîtrise le français. Il s'entend bien avec le patron de l'hôpital, le docteur Broussou, qu'on évoquait. Alors, voilà, il parle tantôt en Medumba dialectal. Donc, celui de la vie quotidienne, quoi, pour faire simple. tantôt en Medumba classique, en plus il est porte-parole de l'hôpital, voilà. Enfin, il est quand même, on a l'impression qu'il marche sur des œufs et que vous marchez sur des œufs avec lui d'une certaine façon. Tant justement, à chaque instant, il y a des mots qui appartiennent à telle ou telle langue ou à tel ou tel dialecte.
Bon, je sais pas s'il y a des Bamileke qui ne marchent pas sur des œufs. Je crois jusqu'en présent, il y a d'ailleurs cette phrase-là qui veut que, on ne commence pas la guerre lorsqu'on a des œufs sur sa tête. Et puis, je crois que ça applique très facilement au Bamileke. Pour ce qui me concerne, je dirais que chaque Bamileke a grandi avec l'injonction de prudence. En fait, même l'injonction de ne pas parler fort.
D'entrer dans injonction de qui?
Familial déjà, et qui est la conséquence de cette guerre civile qui a été brutale. Parce que c'est un génocide, en fait, qui a eu lieu sur une génération. Et donc, elle en est sortie avec la volonté de protéger sa progéniture et ou bien de se protéger elle-même, ce qui fait que les Bamileke sont encore la population la plus diasporique du Cameroun. C'est-à-dire, on s'en va en France, aux États-Unis, on les retrouve partout. On les retrouve, évidemment, au Cameroun, dans toutes les régions. C'est-à-dire, ça vient de ces moments tragiques qui ont fait que les villages soient brûlés, que les gens soient obligés de quitter leur lieu d'origine et qu'ils soient obligés de se forger une conscience transnationale, de fabriquer ce que j'appelle souvent une république diasporique.
Alors, il y a énormément de personnages dans ce roman, Patrice Ganang, on ne va pas tous les passer en revue, mais il y a quand même un qui n'est pas un personnage majeur, mais qui est sans doute l'un des personnages à la fois les plus ridicules, les plus malfaisants et les plus drôles aussi, finalement, du livre, c'est Nchanchou Zakari.
Ah!
Alors, Nchanchou Zakari, c'est le député
local. Le député.
On ne va pas raconter tout ce qui lui arrive, parce qu'il est quand même... c'est presque un roman à lui tout seul, quand même, ce personnage. À travers ce personnage, est-ce que vous avez voulu dénoncer la classe politique camerounaise?
En fait, disons qu'il y a des personnages qui s'imposent au moment de l'écriture d'un roman. On arrive
plus vrai que nature.
Ah, déjà qu'il est nature, disons, parce que c'est un personnage historique. En fait, lorsqu'on écrit un roman comme celui-ci, qui est un roman historique, on a une panoplie de personnages historiques déjà qui se présentent. Et ceux qui sont restés historiques et puis inventés, c'est à peu près 50, disons. Mais Nchanchou Zakari, c'est un personnage député de Barenté qui sera exécuté, qui a une histoire d'amour vraiment avec son épouse Mensa. Je crois Mensa d'ailleurs qui le change. C'est une bataille dans la famille, c'est une bataille dans la maison. Il a deux maisons, une à Yaoundé, une autre à Barenté, comme d'ailleurs les députés l'ont toujours. Et donc sa vie se compose finalement entre deux maquis, un maquis citadin disons et puis un maquis il y a l'amant, n'est-ce pas, Yambeng, cette relation entre Biti et puis Bamileke qui jusqu'aujourd'hui est une relation conflictuelle. Donc je voulais d'une manière plus ou moins passionnée raconter ce qui jusqu'aujourd'hui est une difficulté, c'est-à-dire le dialogue difficile entre les Béti et les Bamileke. Je voulais le mettre comme thème, mais aussi raconter une histoire, l'histoire d'un adultère, d'un amour, n'est-ce pas, d'un amour passion, hein, du sexe qui se vit à Yaoundé, Yaoundé des années 60. Parce que je me suis toujours dit, ben imaginons Yaoundé avec des amoureux. Qu'est-ce que ça donnerait, hein, avec ces petites rues-là, ils se cachent, les quartiers où tout le monde se connaît, surtout durant ces années-là.
J'appelle poésie. Le monde autour, le bleu d'un ciel d'été ou celui dans tes yeux, toi que j'ai rencontré dans un livre. J'appelle poésie. Les bleus de mon âme ou ceux de nos peuples, le souffle du vent, le son du tambour, cette douceur dans la voix d'une mère aimante, aimée, amour. J'appelle poésie, cette musique, ces visions nocturnes, sensations qui courent dans les allées de la mémoire et donnent sens à nos vies. J'appelle poésie, le chant de l'oiseau réveillant l'aube, la fleur d'insomnie qui éclôt, la nature qui rugit, la nuit qui tombe dans un dévorant silence, les mots passants et leur cortège d'images qui deviendront récits. J'appelle poésie, les rires des enfants martyrs dont les regards accrochent l'horizon infini et défient la violence des adultes. J'appelle poésie, tout ce qui m'inspire ou me tue, ma fureur de dire, cet air que je respire, cette bouche qui m'aspire pour le meilleur ou le pire. J'appelle poésie, la couleur pourpre de vos visages, vos yeux mi-clos et la paix retrouvée enfin dans les bras l'un de l'autre pour toujours, maman, papa, je vous appelle poésie. J'appelle poésie. Mon héritage, mon hérésie, ma douce folie, nos utopies, soleil de la conscience qui conduisent à l'intraitable beauté du monde. J'appelle poésie. La vie qui passe, le temps qui lasse, l'amour qui casse. J'appelle poésie. Mes larmes invisibles que tu pleures tous les jours depuis cet hiver à Douala ou notre dernier tango au quartier de la Boca, un soir de pleine lune de fiel. J'appelle poésie ces instants-là suspendus à tes lèvres au goût de miel. Le bonheur qui n'existe pas, n'existe plus depuis ce jour d'octobre noir. J'appelle poésie. La vie qui passe, le temps qui lasse, l'amour qui casse. J'appelle poésie. Les bleus de mon âme ou ceux de nos peuples, le souffle du vent, le son du tambour, cette douceur dans la voix d'une mère aimante, aimée, amour. J'appelle poésie, cette musique, ces visions nocturnes, sensations qui courent dans les allées de la mémoire et donnent sens à nos vies.
J'appelle poésie, la voix de Capitaine Alexandre sur RFI dans VMDN et les mots de ce même artiste que l'on connaît aussi sous le nom de Marc-Alexandre Obambé et qui est en direct et en duplex des studios de France Bleu Nord à Lille, que je remercie d'ailleurs au passage. Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être là. Vous publiez aux éditions La Cheminante un livre de poésie, justement de poésie slamée, intitulé « Si j'y mon cœur », car vous écrivez « J'écris, je crée toujours à partir du cœur ». Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur, Marc-Alexandre Obambé?
Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Il y a de la chaleur, beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour et puis surtout des souvenirs, oui, des souvenirs que je continue à fabriquer, mais qui viennent de loin.
Ce que le poète veut transmettre à travers son cœur et à travers ses mots, c'est quoi?
Oser sa cause, oser nos causes. Voilà, oser nos causes primordiales, tenter de battre des ailes ensemble. Mais c'est vraiment ça. Je crois que s'il y a une chose essentielle, et c'est celle-ci, c'est oser nos causes, en fait. Voilà, et personne ne le fera à notre place.
Alors, il y a un poète dans votre roman, Patrice Guénang, hein, En train de crabe paru, je le rappelle, chez Lattès. Un poète qui est un personnage très important pour l'histoire, un poète américain qui est le confident du vieux NITAP, un certain Robert Adams. Ils sont pourtant très éloigné, hein, a priori, ces deux personnages-là. Et pourtant, c'est lui, effectivement, qui arrive à faire réellement accoucher son histoire à NITAP. Pourquoi est-ce qu'il fallait un poète pour réussir à faire parler NITAP?
Là, je sais pas, mais je me dis parfois que c'est l'âge. Hein. J'ai toujours sous-estimé la capacité de sympathie que des gens d'une même génération, n'est-ce pas, en l'un pour l'autre, par-delà la couleur de la peau, par-delà les expériences, se rendre compte qu'un Américain a, par exemple, 80 ans et qu'un Camerounais, du moins le vieux père, arrive à 78 ans. Ben, ça crée une sympathie automatique qui fait qu'ils soient des amis pour toujours, sans s'être connus avant.
Alors ce poète, donc Robert Adams, il a écrit plusieurs livres sur Walt Whitman, un des grands piliers de la poésie américaine du 19e siècle. Le personnage de Tanou, lui, a plutôt été marqué par Césaire, et vous aussi, hein, je crois, Marc-Alexandre Obambé, on peut dire que Voyage au pays natal, ça a été un vrai choc pour vous.
Oui, Cahiers d'un retour au pays natal
est une
claque poétique. C'est ma première claque poétique et c'est peut-être la plus grande, oui, avec René Char et d'autres professeurs d'espérance, comme je les appelle. Mais Césaire fait partie des premiers à m'avoir fait basculer totalement en poésie.
Au point d'ailleurs d'aller, je crois, en Martinique pour suivre ses traces au sens propre du terme.
oui, je suis un peu. Je suis un extrémiste de la beauté et j'ai été en pèlerinage à Fort-de-France sur les traces d'Aimé Césaire. Et après, j'ai été invité à aller lui rendre hommage avec un opéra que j'avais monté, un opéra slam, dont le titre était Ave Césaire. Donc ça a été un des moments très forts de ma vie artistique, mais au départ, c'était un pèlerinage dans les mots et les pas de Césaire.
Mais la négritude telle que l'écrivait, telle que la vivait Césaire, est-ce qu'elle est toujours d'actualité aujourd'hui?
Alors, pour moi, la négritude, c'est assez simple, mais je pense qu'on a chacun
une définition particulière
de ce qu'est la négritude, mais c'est la respiration de la femme et de l'homme debout. Je pense qu'aujourd'hui encore, il y a des femmes et des hommes qui ont envie de respirer et d'être debout. Donc, pour moi, elle est atemporelle en ce sens-là. C'est beaucoup plus vaste qu'une simple couleur de peau, qu'une simple histoire de peau. C'est plutôt, comme dans la poésie de Césaire, d'ailleurs, en tout cas à mon sens, la respiration de la femme et de l'homme debout. Voilà, c'est la capacité à garder le sens de la révolte et à refuser que quiconque nous impose sa propre projection de nous-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui encore, oui, il y a quelques personnes au moins qui ont envie de vivre debout.
Mais alors, est-ce que la question d'écrire en français, de jouer avec les mots et la musicalité de la langue française, de la langue donc du colonisateur, cette question-là, elle s'est posée à vous, Marc-Alexandre Obambé, ou pas du tout?
Non, elle s'est pas posée parce que je considère que le français n'appartient pas à la langue française n'appartient pas à la France seulement. On peut écrire en français dans une langue étrangère et la question ne s'est pas posée aussi parce que j'ai étudié. J'avais une mère qui était prof de français et de lettres. Je suis arrivé à la poésie, mais pas à la poésie franco-française, à la poésie du monde par la langue française. Lire Mahmoud Darwish, lire Franck Etienne, tous les poètes haïtiens, Césaire, Éluard et Char, Neruda, je les ai lus en français, mais c'est pas des, ça va au-delà de la nationalité. La langue est la première patrie du poète, et indépendamment de finalement la nationalité des auteurs qui nous arrivent.
Patrice Ganang, votre personnage principal, la Nitap, qui est donc la génération des anciens, hein, il est pétri de culture française, lui, pour le coup. Hein, il a fait ses études en français, il adore la géographie et il adore la poésie.
Voilà, mais il faut toujours préciser que pour ce qui est des Bamileke déjà et du Cameroun, le français est une langue de bataille. C'est-à-dire, le français est au milieu d'un champ de bataille. Aujourd'hui, là, on tue au Cameroun à cause du français. Et donc, on tue à cause de la langue française, on tue à cause de la culture française. Et à l'époque, déjà, la France tirait le ballon du feu. Avant, le Cameroun n'était pas une colonie française. Donc, le Cameroun est un champ de bataille où le français ne s'est pas vraiment imposé. Pour ce qui me concerne, ce roman-ci, Empreinte de crabe, c'est le troisième d'une série dont le premier, je l'ai écrit en anglais et parce que je suis au cœur de cette bataille-là. Mmh. Et je l'ai traduit en français. Et celui-ci, j'ai finalement décidé de l'écrire en français, mais pas à pas, je suis en train de partir du français pour l'anglais. Donc, le Cameroun se vit en moi également.
Donc, vous n'arrivez pas à choisir votre camp. Vous êtes un peu comme Nitap, alors, finalement, dans le roman.
Je ne crois pas que les Camerounais aient déjà choisi leur camp, même si l'État du Cameroun est francophone et jacobin, etc. Mais les Bamileke sont les premiers qui dit que le camp ne peut pas encore être choisi. Et l'extraordinaire, c'est que les Bamileke sont aussi ceux qui sont les plus francophones au Cameroun, dans l'expression de la langue, même s'ils ne sont pas dans la culture et puis dans le vécu des structures politiques.
Alors Marc-Alexandre Obambé, vous avez choisi clairement votre camp, c'est le camp de la poésie. Vous lui rendez, on l'a compris, un vibrant hommage, notamment dans ce recueil. Vous dites même que la poésie vous a sauvé la vie.
Oui, 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 clairement, oui. Au moment de ce que j'appelle mon trou fondateur, il y a eu la poésie. Oui, et s'il n'y avait pas eu la poésie, je sais pas, je pense que je serais encore dans ce trou. Mais oui, la poésie a cette puissance-là aussi, je pense, pour certaines personnes en tout cas. Et à 16 ans, c'est la poésie, moi, qui m'a donné envie de rester vivant et qui aujourd'hui me permet encore de partager ça, ce sentiment-là, cette intensité-là de ce que peut être la vie, en fait.
Parce que il y a quand même des mots qui claquent au début de ce recueil. Par exemple, cette phrase, la première fois que je me suis suicidé, j'avais 20 ans, la poésie m'a ressuscité.
Oui, c'est mon rapport à la poésie. Cette phrase dit mon rapport à la poésie. Cette phrase dit aussi que dans une vie, on peut se suicider plusieurs fois et qu'on peut renaître aussi plusieurs fois. Donc il y a la résilience, il y a la résistance, il y a ce que j'appelle aussi la révistance, c'est-à-dire de continuer à courir après un rêve parce que ça permet de rester en vie, oui.
Et le poème suivant dans ce recueil s'intitule « Réapprendre à vivre ». Vous avez accepté, Marc-Alexandre Obambé, de nous le faire entendre en direct. On vous écoute.
Réapprendre à vivre, de quoi s'agit-il ? D'être vibrant et à l'écoute des éclats de silence et des battements du cœur qui éclos en écho. être soi-même, être de relations humaines de plein vent, élégant même par mauvais temps, être au rendez-vous avec soi-même et les autres l'est. Les autres, celles et ceux qui osent leur cause primordiale et comme nous tentent de battre des ailes en nourrissant leur lumière de lumière, comme nous tremblent de terre, de mer, d'amour et de feu. Réapprendre à vivre de quoi s'agit-il de poursuivre le voyage, continuer à aller voir ailleurs si on y est, car l'homme libre est celui qui choisit son exil et la liberté est au bout du chemin des poèmes. Réapprendre à vivre de quoi s'agit-il de briser la glace et nous regarder enfin en face afin de faire face ensemble au désespoir qui est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Je rêve de sourire cerf-volant d'un arc et d'une flèche empoisonnée, de bonheur sans fin. Je veux porter l'humour toujours en humeur, voir nos visages irradiés de liesse claire et profonde comme ces aurores boréales qui se lèvent en nous. À la bonne heure délicieuse des jours sans fin, je veux des échanges fervents, passionnés et passionnants, engagés et engageants, fraternels et solidaires. Je rêve. Je rêve de mains en fleurs généreuses, qui frissonnent du bon sens de nos révoltes nécessaires et de la tendresse dans nos regards d'enfants. D'un siècle en dérive, bon sang, je veux des couchers de soleil inénarrables et des lunes pleines à contempler jour et nuit, entre amis ou amants, amarrés à l'amour et s'aimant doucement, ensemble seulement nous s'aimerons la détresse de nos solitudes juvéniles de 100 ans. Je rêve de matins rouges et de soirées d'ivresse bleue, de grains de folie, poussière d'étoiles filantes, vous savez, tous ces petits riens qui rhabillent la vie dénudée et lui offrent des vêtements de lumière pour aller au bal des sentiments. Je veux nos voix en chorale de gospel et collier d'astres au firmament, pouvoir entendre et ressentir encore et toujours la larme de l'âme, le chant de l'homme, la larme du monde. Je veux, je rêve, je veux, je rêve, je veux, je rêve et je combat. Pourquoi ? Parce qu'à l'école de la poésie, on n'apprend pas, on se bat. On se bat avec nos armes miraculeuses, on se bat pour ne pas perdre le goût des autres, la fin du monde, la curiosité de l'esprit, de tout ce qui n'est pas nous. On se bat contre tout sentiment d'indifférence à l'autre qui n'est qu'un autre soi, sans toi ni droit ni autre choix parfois que celui de fuir, tout quitter et vivre hors la loi. Parfois, en la vie, on se bat. Et on apprend à escalader des falaises à mots nus, tomber 7 fois et se relever 8, chevaucher sa chute pour poursuivre le voyage, car la liberté se trouve au bout du poème en nous. Il nous faut donc réapprendre à vivre et rester vivant. Comment ? En faisant de la place dans nos vies à la beauté qui écoute aux portes de la justice. En résistant aux assassins d'aube et aux cyniques de tous bords, et cela commence peut-être par refuser de leur ressembler de tout cœur. Réapprendre à vivre. De quoi s'agit-il ? De ne pas perdre de vue la vie, la vraie, rêver, le rêve ancré, poème des origines. Ne pas se perdre de vue, ne pas perdre sa vie à la gagner. Être, soi-même, contre vents et marées, être et oser toute la prose de son âme. Merci.
Marc-Alexandre Obambé en duplex de Lille et en direct dans VMDN sur RFI. Une phrase comme ça, entendue il y a quelques secondes à l'antenne d'RFI, Patrice Ganang, dans la bouche de Marc-Alexandre Obambé. À l'école de la poésie, on n'apprend pas, on se bat. Et vous la partagez ?
Eh oui, totalement. Mais je pense que la bataille n'est pas seulement rhétorique. Je crois que la bataille est physique. La bataille est vraiment une bataille dans des tranchées. C'est-à-dire, nous avons une génération qui croit qu'elle peut résoudre des problèmes uniquement en parlant. Et je pense que c'est essentiel que l'action soit remise sur la table. C'est essentiel que les relations qui sont tissées entre les gens soient recomposées, c'est-à-dire que les relations politiques, les relations sociales, familiales et même tribales soient recomposées. Et je crois que nous avons, peut-être à cause des réseaux sociaux, nous avons une relation plus ou moins distante avec le verbe, où on croit qu'il suffit d'écrire un tweet et la révolution se fait. Je pense qu'il faut agir.
Est-ce que la poésie, la littérature, les mots, Marc-Alexandre Obambé, sont des armes efficaces aujourd'hui ?
Alors la littérature, la poésie, les mots sont des armes miraculeuses. On va revenir à Césaire encore, mais on revient souvent à Césaire. Mais je suis assez d'accord, c'est-à-dire que les mots doivent être accompagnés d'actes et d'actions, en fait. Et la littérature et la poésie, les mots sont des armes efficaces en ce sens qu'elles continuent à... que cet art, en tout cas le geste d'écrire et les livres aussi permettent de créer des ponts entre les imaginaires, entre les cultures et donc entre les femmes et les hommes. Et en cela, il y a une efficacité que personne ne peut nier. J'entendais dans le livre de Patrice Gannon que vous citiez, ce poète américain qui alors je l'ai pas lu encore,
hein,
mais il est voilà, il y a quelque chose de ça aussi, c'est-à-dire que la poésie c'est aussi l'altérité, la littérature c'est aussi l'altérité, et recomposer les liens, comme dit Patrice, ça passe aussi par saisir cette altérité là et on peut la saisir par la littérature, puisque la littérature parle de nous, parle du monde et du monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons envie d'agir en tant que sujet. Donc il y a quelque chose que peut la littérature à ce niveau-là. Et je pense toujours à Franck Etienne aussi quand on me pose cette question-là. Franck Etienne qui dit « Que peut la littérature face à un innocent qu'on assassine ? Que peuvent toutes les bibliothèques du monde face à un enfant qui a faim à rien ? Et pourtant une seule phrase dans un seul livre peut bien sauver toute l'humanité. » Donc pour moi le combat est là aussi.
Sylvie Darrow, qui signe la préface de votre recueil, Marc-Alexandre Aubambé, parle de vous comme d'un diseur d'espérance. Alors, vous parliez de combat à l'instant. Est-ce que, au XXIe siècle, en 2018, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que l'espérance est un combat ?
Oui, l'espérance est un combat, mais l'espérance est nécessaire. Je pense que sans espérance, on ne combat pas. Si on ne pense pas qu'on peut gagner, je pense qu'on se suicide tous et on n'a pas besoin de combattre.
Vous citez Camus d'ailleurs, hein, vous faites un petit clin d'œil à Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux.
Exactement, exactement. Je pense que c'est le moteur de tous les combats, c'est l'espérance de pouvoir vaincre. S'il n'y a pas d'espérance, on ne se bat pas, on se rend en fait.
Alors, outre le Cameroun et l'amour de la poésie et des mots, il y a aussi un autre thème qui vous rassemble tous les deux, Patrice Gannon, c'est sans doute le thème de l'exil. Il y a une phrase dans le recueil de Marc-Alexandre Aubambé qui est la suivante. L'homme libre est celui qui choisit son exil et la liberté est au bout du chemin.
Bon, moi, j'ai pas choisi mon exil, on m'a expulsé du Cameroun.
Oui. Donc là, mais c'est autre précisément.
Chose. Avec convoi et avec quatre.
Mais donc, ça veut dire que vous n'êtes pas un homme libre, alors. Vous n'êtes pas un homme libre aujourd'hui, puisque vous êtes en exil forcé?
Moi, je crois que la liberté se compose, n'est-ce pas? C'est la liberté se compose par ces actions dont je parlais, par des solidarités qui se bâtissent, et évidemment par l'alphabet qui inscrit des droits dans quelque chose au moins d'intangible, qu'on peut appeler des constitutions, qui rendent nos droits plus ou moins fixes. Mais il demeure que l'expérience personnelle que moi j'ai vécue, qui est celle d'ailleurs des Bamileke, veut que une ou bien des centaines de milliers de personnes aient été chassées de leur pays et puis se soient retrouvées à l'étranger pour le reste de leur vie. Et beaucoup de ces personnes-là, c'était les écrivains. J'ai beaucoup de sympathie. Mjoya, d'ailleurs, est mort en exil à Yaoundé, dont j'ai été expulsé plus tard moi-même en 2017, le 27 décembre. Donc, je crois que l'écriture se fonde, c'est vrai, dans la beauté, mais l'écriture déjà, c'est la narration d'expériences possibles. Cependant, c'est aussi le récit des choses que les gens ont vécues et puis pour rendre impossible la répétition de celles-ci lorsqu'elles sont horribles.
Merci beaucoup à tous les deux, Patrice Gannon. Empreinte de crabe chez Lattès, Marc-Alexandre Aubambé, Si j'y mon cœur aux éditions La Cheminante, et merci à nos collègues de France Bleu Nord.
Merci beaucoup.
Bonjour Alain Pilot.
Bonjour Jean-François, et le Camerounais de Dola que je suis vous salue bien, Patrick Nagang et Marc-Alexandre Aubambé.
Mais du Cameroun on part à présent pour la Côte d'Ivoire, on l'a reconnu là.
Oui, avec l'engagé aussi parfois, oui. Alpha Blondy et son nouvel album Human Race, sur lequel il a convié, en adéquation avec ce race humaine, des nationalités différentes.
Comme la béninoise Angélique Kidjo, le Congolais Fally Ipupa ou le Sénégalais Youssou N'Dour pour le morceau Otefe, dont le thème est...
C'est tous ceux qui exploitent l'Afrique, que ce soit d'ici ou en Afrique même, okay, ils ne veulent pas que les Africains soient unis. Parce que si nous sommes unis, ils ne pourront plus avoir notre diamant gratuitement, ils ne pourront plus avoir notre uranium gratuitement, ils ne pourront plus avoir l'or gratuitement, ni la forêt. Okay, donc ils ne veulent pas. Et la chanson dit, ils dressent les Africains les uns contre les autres. Et ça finit par... Ils n'épargnent pas les Africains et les Africains ne s'épargnent pas entre eux-mêmes. Les Africains s'entretuent au Libéria, Les Africains s'entretuent au Nigeria, en Somalie, en Libye, au Mali, au Congo. Le proverbe africain qui dit « Ce qui est dangereux pour le tissu en coton, c'est la tige du cotonnier. »
Youssoundour dans VMDN sur RFI, autre artiste Alain convié sur ce disque, venu récemment d'ailleurs dans VMDN, Angélique Kidjou.
Pour Alphaman Redemption, traduction.
Quand j'ai lu l'Ancien Testament, le Tanakh, pour la radio, Alpha Blondie FM, je suis arrivé à l'Ecclésiaste et ce paragraphe m'a beaucoup plu. Ce verset m'a beaucoup plu. Et donc, la véracité de ce texte m'a plu. Donc je l'ai noté et puis j'en ai fait une chanson. Ok, parce qu'en vérité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été fait a déjà été fait. Tout ce qui est dit, en train d'être dit, a déjà été dit. Ok, donc ce n'est pas nous qui allons inventer l'eau tiède. Ok, voilà. C'est un peu dire qu'on doit avoir un peu d'humilité et puis on doit aussi avoir la foi en la vie qu'on nous a donnée. Ok, ne soyons pas de grognons tout en train de se plaindre, quoi. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, ok. Il y a un temps pour embrasser, puis il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Voilà, c'est compris dans notre ADN. C'est une vérité inhérente à l'espèce humaine.
L'œil ne se rassasie pas de voir. L'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera.
Alphaman Redemption avec Angélique Kidjou, invité d'Alpha Blondie.
Des invités et des hommages comme celui fait à l'un des plus gros tubes du groupe britannique Led Zeppelin.
On était dans le tourbus avec la musique Cost et puis justement sur internet, sur YouTube, je viens d'écouter les vieux trucs. Et puis on est tombé sur All Out of Love. Et moi je me souviens avoir beaucoup aimé cette chanson en écoutant la voix de l'Amérique à l'époque.
Okay. Voice of America.
Voice of America, you know, qui inondait l'Afrique avant que RFI n'arrive. Ok. Et puis, quand j'ai entendu, mais ça, je veux cette chanson. Et puis, on l'a téléchargée. Et puis, j'ai commencé à travailler avec les musiciens. Ok. Voilà. C'est une question de coup de cœur, une question d'amour. Ce riff de guitare, je l'appelle des guitares identitaires. Ok, quand tu l'entends, tu sais. Quand j'aime une musique, je vais la reggaefier. Ok, je vais la mettre au goût des mélomanes reggae. Ok, et comme la musique est un langage, est une langue universelle. Ok, donc il suffit de faire une traduction reggaematique.
Merci beaucoup, Alpha Blondie.
Merci, Alain.
Alpha Blondie à votre micro, Alain Pilot et Alpha Blondie qui sera notamment en concert le 16 novembre au Bataclan à Paris. Merci Alain, dans un instant le journal, on se retrouve demain avec un autre écrivain espagnol, celui-ci Javier Cercas qui publie Le Monarque des Ombres chez Actes Sud. À demain. Vive